sujet qui n'est pas souvent abordé. Justement, aujourd'hui, on va se poser la question, mais que se passe-t-il derrière le voile? Vous savez, au théâtre, vous avez les acteurs sur la scène, et puis vous avez un rideau, et que se passe-t-il derrière le rideau? Derrière le rideau, il y a plus de monde que sur scène, souvent, hein, il y a tous les techniciens. Et que dire du cinéma, hein? Vous voyez les acteurs, vous voyez le film, mais quand vous avez, à la fin, le générique, la liste qui défile, c'est impressionnant, vous dites, c'est pas possible qu'il y ait tant de monde qui travaille, hein, sur un film, hein, des dizaines, des centaines de personnes parfois. Et tout cela, on ne le voit pas. Et bien, sur le plan spirituel, il en est de même. Il y a ce que nous voyons et il y a ce que nous ne voyons pas derrière le voile. Et aujourd'hui, on va aller dans un texte, dans un livre, Daniel, chapitre 10, verset 12, où Dieu va lever le coin du voile et elle va nous montrer un petit peu ce qui se passe derrière ce rideau. Daniel, chapitre 10, verset 12. Nous avons lu tout à l'heure, au moment de la prière, le chapitre 9, en partie. Daniel, a passé beaucoup de temps à prier. Et là, nous lisons ce texte qui nous parle de... On peut commencer même un peu avant le verset 12. On va commencer au verset 10 pour avoir le contexte. Hein, et il est dans une attitude de prière. Ça fait plusieurs semaines qu'il prie. 3 semaines exactement. Il est dans une attitude de prière. Il est dit, voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, ici nous avons un texte assez surprenant, hein, Daniel qui prie. C'est un ange qui vient là, c'est un ange qui vient, qui lui parle. Il est la réponse de Dieu, mais on apprend ici qu'entre le moment où Daniel a commencé à prier et le moment où l'ange vient, il s'est écoulé 3 semaines. Les 3 semaines où Daniel a prié. Pourquoi 3 semaines aussi? Eh bien parce que l'ange nous apprend qu'il a été confronté à de l'opposition. Il y a eu de la résistance. Le chef du royaume de Perse, probablement un démon qui a une puissante autorité sur la Perse, qui correspond à l'Iran aujourd'hui, qui s'est opposé à ce que cet ange vienne apporter le message de Dieu à Daniel. Donc ici, on va retrouver ce scénario. Hein. Un homme qui prie, on va le retrouver dans toute la Bible, quelqu'un qui prie, Dieu qui répond en envoyant un ange. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois il envoie un ange, un messager. Et puis, le diable qui s'oppose. L'opposition de l'ennemi pour que le message ne parvienne pas, par tous les moyens. Donc, ce qui nous intéresse, nous, au premier chef, c'est notre part. Comme Daniel, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à lire la Bible. D'ailleurs, tout a commencé pour Daniel dès le chapitre 9. Regardez, chapitre 9, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui avait de grandes responsabilités, hein, il était... auprès des rois des Mèdes et des Perses. Et au verset 2, Daniel, chapitre 9, verset 2, nous lisons « La première année de son règne, du règne donc de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres, donc à la Bible, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Donc, c'est un homme qui étudie la Bible. On va le voir plusieurs fois. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes qui étudient la Bible? C'est très important. On a besoin de chrétiens qui lisent la Bible, qui l'étudient, qui cherchent, qui veulent comprendre. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ? 70 ans ont été annoncés par le Seigneur à travers Jérémie. 70 ans d'exil avant que le peuple d'Israël ne revienne. Et quand il apprend ça, il ne dit pas « bon, c'est bon, le Seigneur l'a dit, il va l'accomplir ». Il dit « non, je vais prier ». Même si Dieu l'a promis, il va prier. Même si Jésus a dit « je vais revenir », nous devons prier pour le retour de Jésus. Est-ce que vous priez pour le retour du Seigneur ? Ou vous dites « le Seigneur va revenir ». De toute façon, ce n'est pas la peine que je prie. Non, la Bible nous invite à dire « amen, viens Seigneur Jésus ». Nous devons prier pour son retour. Ici, il prie pour... Maintenant, il va prier, hein, verset 3, et toute la suite du chapitre, c'est une prière de repentance, de confession. Seigneur, pardon. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, accomplis tes promesses. Hein, on va relire ce verset magnifique, verset 19, 9, 19. Il conclut sa prière ici. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Pour, par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Voilà. Donc il prie, hein, il est en train de prier. C'est un homme qui vraiment comprend que voilà, les réponses sont dans la Bible. Voilà. Il y a des réponses dans la Bible. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez trouver des réponses de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements dans la parole de Dieu. Chapitre 10, verset 22 nous disait, verset 12, pardon, disait, hein, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. » Voilà, c'est ça. « Avez-vous à cœur de comprendre la Bible, de l'étudier, de la méditer, de connaître la volonté de Dieu pour votre vie, pour l'Église de Jésus-Christ, pour ce monde ?» Si vous l'avez à cœur, Dieu vous révélera de grandes choses. Pas des choses nouvelles, mais des choses qui sont déjà dans la Bible. Hein? Daniel n'a rien découvert de nouveau, c'était écrit dans Jérémie, dans le prophète Jérémie. Hein? Il faut méditer la Bible, il faut l'étudier avec amour et avec foi. Si vous avez cette attitude, regardez 9:22, c'est suite à cette prière que nous avons lue, 9:22, il y a un ange qui va venir, c'est Gabriel d'ailleurs, hein, Gabriel, on peut le lire, verset 21 déjà, et 22. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, hein, pour lui il apparaît sous la forme d'un homme, mais on sait que c'est un ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, m'instruisit, il s'entretint avec moi et il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Voilà. Quand Dieu trouve des hommes et des femmes qui sont prêts à se plonger dans la parole de Dieu, à la lire, à la méditer, à demander à Dieu de l'ouvrir pour eux, il va le faire. Il va ouvrir la parole, mais il va aussi ouvrir votre intelligence. Parce que vous savez, si vous vous approchez de la Bible seulement avec l'intelligence humaine, vous n'irez pas très loin. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu pour comprendre la parole, pour trouver des trésors cachés. C'est notre part, c'est notre responsabilité, mes amis. Quand nous prions, il se passe des choses. Quand nous étudions la parole de Dieu aussi, Dieu nous révèle des choses. C'est notre responsabilité. Alors, voilà, ça c'est notre part. Daniel, quand il a prié, il ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté du rideau. Ce n'était pas son problème. Il ignorait ce qui se passait. Sa part, lui, c'était de prier, de crier à Dieu devant sa parole. Dieu s'occupe du reste. Même si là, il a daigné montrer à Daniel et à nous, en soulevant le rideau, en écartant un peu le rideau, en soulevant le voile, qu'est-ce qui se passe derrière quand nous prions ? Il se passe beaucoup de choses. Vous n'imaginez pas ce qui se passe quand vous commencez à prier. Il est dit, quand tu as commencé à prier, plein d'événements se sont déroulés. Dieu a commencé à envoyer une réponse. Mais le diable aussi a commencé à réagir et à s'opposer à la réponse. C'est pour ça que parfois, quand nous prions, ça prend du temps. Donc, Seigneur, je prie, je n'ai pas de réponse. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de répondre, mais l'ennemi est en train de s'opposer, mes amis. Il y a un combat spirituel derrière le rideau que nous ne voyons pas, mais qui est réel. Regardez avec moi, par exemple, plusieurs exemples. On va voir comment Dieu a envoyé des anges pour délivrer. Regardez, Nombre chapitre 20, verset 16. Nombre 20, verset 16, c'est Moïse qui parle ici. Nombre 20, verset 16, où il rappelle ce qui s'est passé. Il dit, alors qu'ils étaient en Égypte, juste avant, il parle de l'Égypte où les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et puis verset 16, nous avons crié à l'Éternel. Comme Daniel, ils ont crié à l'Éternel, ils ont prié et il a entendu notre voix. Quand on crie, Dieu entend. Quand on prie, Dieu entend. Et Dieu répond. Et il dit, il a envoyé un ange et il nous a fait sortir d'Égypte. Voilà comment il a résumé, comment il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées, hein, que l'on lit dans le texte de l'Exode, les fléaux, les plaies d'Égypte, tout ça, tout ce qu'on voit et que les Égyptiens comme les Juifs ont vu. Mais ce que dit ici Moïse, c'est Dieu a entendu et il a envoyé un ange et il nous a fait sortir d'Égypte. Regardons maintenant plusieurs textes qui nous disent que la loi a été donnée par des anges. Souvent, on pense que la loi, c'est Dieu qui l'a donnée, comme ça, directement, du haut du mont Sinaï. Mais plusieurs textes nous disent que Dieu, il a utilisé des anges pour donner la loi. Regardez, Hébreux, chapitre 2, verset 2. On va voir plusieurs textes dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. Hébreux 2, 2. Hein, il est dit, en effet, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Donc revenons au verset 2, il est dit, la parole annoncée par des anges. Et manifestement, c'est une référence déjà à l'époque de la loi, quand Dieu a donné sa loi par des anges. Hein ? Regardez, un autre texte, Actes chapitre 7, versets 37 et 38. Actes 7, 37, 38. Cette fois-ci, c'est un autre passage où nous lisons la même pensée. Hein. Ici, c'est donc Paul qui parle. Pardon, c'est Étienne qui parle. 7, verset 37. Il dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants, des paroles vivantes pour nous les donner. Voilà. Donc encore une allusion à un ange qui était là sur le mont Sinaï et qui a remis à Moïse finalement la loi. Voilà les commandements. Hein. Donc ça, c'est des textes que souvent on ignore, on ne connaît pas, mais on voit combien Dieu a utilisé les anges. Hein. Ils sont vraiment des instruments entre ses mains pour transmettre son message. Et puis un peu plus loin, verset 53, toujours la même idée. « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez pas gardée. » Donc encore une fois, hein, c'est allusion aux anges qui ont été les messagers de Dieu, comme je disais jeudi, les anges sont les facteurs de Dieu. Un autre texte encore pour confirmer, Galates 3, 19. Voilà, Galates 3, 19, l'importance des anges. Dieu, il utilise beaucoup les anges. Galates 3, 19, il est dit que la loi a été donné à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ce médiateur, c'est Moïse, certainement, mais promulgué par des anges, donné par des anges. Toujours, c'est répété plusieurs fois. Donc si vous ignorez ou vous doutiez de cela, voilà, combien les anges sont importants dans la Bible. Dans le livre de Daniel, si vous connaissez le livre, les anges sont très actifs. Hein, sont très actifs. Je vais juste résumer. Quand les trois compagnons de Daniel sont jetés dans la fournaise ardente, qui est avec eux ? Quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu. Il est dit, un fils de Dieu. Hein, donc, probablement un ange, hein, un ange, peut-être même le Seigneur, l'ange de l'Éternel. En tout cas, voilà, ils ne sont pas tout seuls. Ces trois compagnons, ils sont là et le roi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un fils de Dieu qui est là, un ange qui est là avec eux. On peut supposer que les compagnons de Daniel, qui étaient des hommes de foi, ont prié aussi. Ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, voilà, sois avec nous, Seigneur, glorifie-toi ». Ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé un ange pour les délivrer. On sait qu'ils sont sortis sains et saufs. D'ailleurs, ils le disent, hein, on va le lire, hein, Daniel 3, 28. Hein, c'est leur message au roi. Daniel 3, 28, où il résume en disant, voilà, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange, donc c'est même le roi qui le dit, hein. Il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Voilà. Dieu a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Chapitre 6, un peu plus loin, cette fois-ci, c'est Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions. Et là, dans la fosse aux lions, on ne voit pas ce qui se passe. On sait simplement que quand le roi, le matin, d'une voix tremblante, demande « Daniel, Daniel !» Il appelle Daniel et Daniel est toujours là. Il dit « Je suis... » Chapitre 6, verset 23. Le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune trace, aucune blessure, pardon, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et verset suivant, nous lisons, c'est pas ce verset-là, je suis en train de chercher ce verset où Daniel dit que Dieu a envoyé son ange, peut-être juste avant, hein, verset. C'est 23, alors on revient en arrière, voilà, 23, ouais. Mon Dieu, voilà, 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, et ils m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Voilà, je n'ai rien fait de mal. Donc, probablement que Daniel a vu un ange qui était là avec lui, il y avait les lions qui étaient là, et il y avait un ange qui était là avec lui pendant toute la nuit, et l'ange a fermé la gueule des lions. Voilà, Dieu répond, hein, on peut supposer que Daniel a prié aussi. Toujours le même processus, Satan aurait bien voulu que Daniel et ses compagnons périssent. Et Dieu les délivre in extremis, c'est vrai, mais Dieu répond, Dieu répond. L'homme prie, Dieu répond en envoyant parfois des anges. Et dans votre vie, vous l'avez peut-être expérimenté. Dans le Nouveau Testament, Gabriel, qu'on a vu dans ce livre, c'est le messager de Dieu. Pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'est Gabriel qui va venir. Il va être envoyé. Zacharie est en train de prier, d'offrir un sacrifice. Et là, il y a un ange qui vient, qui lui dit, voilà, tu auras un fils, tu l'appelleras Jean. Un peu plus tard, c'est encore Gabriel, un ange qui est envoyé à Marie, pour lui dire, voilà, tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus. À tous les deux, il annonce un heureux événement. Un ange même est envoyé pour fortifier Jésus un jour, dans le jardin de Gethsémané. Jésus est en train de prier, vous savez, c'est un combat terrible qu'il livre là, dans la prière, justement, mon Dieu, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il prie, et là, il dit qu'il y a un ange qui apparaît du ciel pour le fortifier. Même là, un ange intervient. Hébreux chapitre 1, verset 14, nous résume le ministère des anges. Hébreux, qui est un livre qui parle beaucoup des anges aussi. Chapitre 1, verset 14, et qui nous résume leur ministère en disant « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Voilà. Le ministère des anges. On va lire maintenant une autre histoire dans le Nouveau Testament qui, on retrouve un peu un scénario semblable à celui de Daniel 10, un homme qui prie, Dieu qui répond et qui envoie un ange. On va lire Acte 10, regardez cette histoire intéressante, justement avec cette idée que les anges ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Acte 10. Verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc il n'était pas juif, hein, c'était sûrement un romain. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Probablement ce qu'on appelle un prosélyte, c'est-à-dire un converti au judaïsme. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà un homme de prière aussi. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. Rappelez-vous, hein, dès que tu as commencé à prier, tes prières ont été entendues, a-t-il été dit à Daniel. Dès que vous commencez à prier, Dieu écoute. Et Dieu met en œuvre la réponse. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon sur le mont Pierre. Ah, c'est tout. Et ce qu'on va remarquer ici, c'est que l'ange, les anges n'annoncent pas l'évangile, jamais. Ils ont un ministère au service de ceux qui doivent hériter du salut, mais on ne voit jamais les anges qui disent « Voilà, bon, je vais vous annoncer l'évangile. Hein. » Et ça aurait été tellement plus simple si Dieu avait décidé que ce soit les anges qui évangélisent le monde. Comme certains le pensent, le monde aurait été évangélisé très rapidement. Que faire face à des anges, n'est-ce pas? Dans toute leur puissance et leur gloire qui apparaissent partout dans le monde et qui diraient « Voilà ce que vous devez faire pour être sauvés. » Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Les anges, quand ils sont envoyés, eh bien, ils disent « Voilà, va t'adresser à un tel. Voilà, hein. Va chercher Pierre. » En effet, une chose que les anges ne peuvent pas faire, c'est évangéliser à notre place. L'évangile est, semble-t-il, une vérité mystérieuse pour eux. Il y a un texte énigmatique dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, qui nous dit que ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et il est dit, l'évangile, donc, ces choses, voilà. Alors on va lire tout. Hein. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles, donc ces choses-là, dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. » Les anges sont pleins de sagesse, ils en savent seulement beaucoup plus que nous. Et pourtant là, il y a un domaine dans lequel ils aimeraient bien en savoir plus. Ils aimeraient bien plonger leur regard dans ces choses-là qui, manifestement, sont étrangères. Leur sont étrangères. Effectivement, l'évangile, ce n'est pas pour les anges. Il n'y a pas d'évangile pour les anges. Il n'y a pas de bonne nouvelle pour les anges. Il n'y a pas de salut pour les anges. Il n'y a pas de sauveur pour les anges. Jésus-Christ n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour nous. Quand Dieu a vu le péché d'humanité, hein, il a envoyé son propre fils pour nous, pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants. Il n'y a pas de rachat pour les anges. Il semblerait très clairement dans la Bible que quand les anges ont fait leur choix, il était irréversible. Ceux qui ont choisi de rester fidèles à Dieu sont les anges élus, il est dit, les anges saints. Et ceux qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion, ce sont des anges déchus, démons qui sont perdus. Il n'y a pas de rachat pour eux. Il n'y a pas de bonne nouvelle pour les anges, mes amis, alors qu'elle est pour nous la bonne nouvelle. Et c'est pour cela qu'ils sont intrigués par cela. Qu'est-ce que c'est ce message extraordinaire d'un salut, d'un sauveur, d'un rachat? Regardez, Hébreux chapitre 2, verset 16, hein, nous le confirme, Jésus n'est pas venu pour sauver les anges. Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide en parlant de Jésus, mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus n'est pas venu racheter les anges, mes amis. Il est venu nous racheter, nous. Quel privilège. Nous qui sommes en dessous des anges, hein, nous sommes inférieurs aux anges. Ils sont plus puissants que nous. Ils ont été créés avant nous. Ils sont plus glorieux que nous. Eh bien, pourtant, c'est nous que Dieu a choisi de racheter par son Fils Jésus. Et c'est nous qu'il a choisi de faire ses propres enfants, fils et filles de Dieu. Quelle grâce, mes amis. Alors, si nous revenons maintenant à Actes chapitre 10, verset 22, on va lire quelques textes pour voir justement que ce qui se passe. Actes 10, verset 22, quand Pierre arrive, hein, Donc d'abord, c'est les messagers qui sont allés chercher Pierre et qui lui dirent, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. L'ange ne lui a pas donné l'évangile. Il a dit, va chercher Pierre, c'est Pierre qui va te donner l'évangile. Verset 33, même chose, maintenant Pierre est arrivé à Joppé. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voilà. Ils sont à l'écoute de Pierre maintenant. C'est lui qui va annoncer l'évangile. C'est nous qui devons annoncer l'évangile, mes amis. Et puis plus loin, au chapitre 11, Pierre va reprendre ce récit et il va donner un petit détail intéressant. Acte 11, versets 13 et 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Imaginez l'ange qui dit « Voilà, Pierre, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Moi, je ne peux pas les dire. C'est pas mon ministère, mais Pierre te le dira. » Voilà. C'est votre ministère, c'est le nôtre. La prière, l'évangélisation. Alors voilà, l'homme prie, Dieu répond. Il envoie des anges parfois, des messagers. Mais derrière le voile, il y a donc un combat. On voit qu'il y a une guerre quand nous prions. Il y a un combat et on le voit encore plus clairement dans Apocalypse 12, un événement encore à venir, qui nous décrit vraiment cette bataille. Très connu, c'est l'archange Michael qui lutte contre Satan et ses anges. Apocalypse 12, grand chapitre, illustré très souvent par des peintures, par des statues, par des toutes sortes de dessins. On a tous vu cela. Alors, Apocalypse 12, alors, verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Voilà, on a compris qu'il y a une guerre dans le ciel, qu'il y a une lutte derrière le rideau. Mais là, c'est un événement qui va être encore plus spectaculaire. Michel, ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, vous avez tous vu le mont Saint-Michel, par exemple, voilà. Vous avez tous vu cet ange puissant, Michael, avec une lance ou une épée là, qui terrasse un dragon à ses pieds, voilà, c'est tiré de l'Apocalypse, de la Bible. Voilà. Cette bataille finale, cette grande guerre. Mais remarquez bien, c'est Michael, c'est les anges qui luttent contre les anges de Satan, c'est pas à nous de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une doctrine, toute une théorie qui dit que les chrétiens, ils doivent combattre ainsi contre les démons et contre tous ces anges, mais notre combat, il est dans la prière. Voilà. Nous nous adressons à Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. Après, Dieu, c'est lui qui décide qui il envoie et ce qu'il fait. C'est derrière le voile, on voit pas tout. Mais nous, notre part, c'est dans la prière. C'est à genoux, devant la parole de Dieu. Rappelez-vous que Daniel, quand il a prié, il ne savait pas tout ça. Il a appris après, il avait déjà prié. Alors c'est vrai que Satan s'oppose. Regardez, 1 Thessaloniciens 2,18, Paul lui-même mentionnera des circonstances où il aura à faire face à l'opposition du diable. Il dit par exemple aux chrétiens de Thessalonique, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins Paul, et une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc pendant deux fois, il dit, j'étais conscient qu'il y a vraiment eu l'opposition de Satan pour aller vous voir. Alors comment est-ce que ça peut s'opposer? Eh bien, nous le vivons tous d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous avez un projet d'évangélisation, n'est-ce pas? Et puis là, vous tombez malade à ce moment-là, vous avez un empêchement, voilà, et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Nous, dans le ministère, René pourrait le témoigner, c'est que parfois on a souffert aussi des grèves, des retards de courrier parfois, parce que parfois c'est comme ça qu'on recevait nos soutiens, nos finances, et puis ça n'arrivait pas parce qu'il y avait des blocages, des choses comme ça. Donc tout ça, c'était des moyens aussi d'empêcher notre ministère et de le rendre compliqué. Hein. Et puis il y a ce grand chapitre d'Éphésiens 6, hein, qu'on peut lire, hein, où Paul confirme ce combat, hein, Éphésiens chapitre 6, ce grand combat spirituel. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre des hommes, des êtres humains, principalement, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, hein. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, donc derrière le voile. Hein. Et comment on combat? Eh bien, prenez toutes les armes de Dieu, prenez la panoplie de Dieu, littéralement, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, donc ça c'est l'évangélisation. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi qui me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc on revient à la prière, voyez, l'importance de la prière. Ça, c'est notre part. Nous n'avons pas d'épée, hein, d'armes humaines, matérielles pour combattre. Nous avons des armes spirituelles, la parole de Dieu et la prière. Connaître la Bible, la faire connaître. Et prier. Alors on voit ici que Satan, il a bien copié l'organisation de Dieu, ou en tout cas, il a conservé l'organisation de Dieu. Il y a une organisation, hein, dans le monde spirituel. Il y a des chefs, des princes. On a vu que sur la Perse, il y avait un chef puissant. Il faut croire qu'il est toujours là aujourd'hui. Hein, parce que l'Iran, la Perse, on pense à nos amis iraniens, c'est un pays qui est encore sous un joug, hein, un joug qui s'oppose à l'Évangile. Hein. Donc, c'est pas nouveau. 1 Jean 5, 19. On va terminer avec ce verset, 1 Jean 5, 19, qui nous confirme évidemment, hein, que c'est aujourd'hui encore le cas. Nous savons que nous sommes de Dieu, amen, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le prince de ce monde, c'est toujours Satan, hein, aujourd'hui. Si vous en doutez, eh bien, vous n'avez qu'à regarder la télé ou toutes les infos, vous voyez bien qui tient ce monde, hein, c'est l'ennemi encore aujourd'hui. Mais plus pour longtemps, mes amis, le Seigneur revient. Et le Seigneur sera vainqueur, on le voit dans toute la Bible. Hein. S'il tarde encore, c'est pour que d'autres viennent encore, d'autres soient sauvés. Hein. Oui, s'il y a un chef puissant sur la Perse, il y a un chef puissant sur la France aussi, certainement. La France est aussi sous l'autorité de puissance qui s'oppose à l'Évangile, malheureusement. C'est pour cela qu'il nous faut persévérer dans la prière, mes amis. Persévérer dans la prière. Comme Daniel, hein, qui est un bel exemple d'homme de foi et de prière, qui a crié à Dieu, qui a vu Dieu répondre. Voilà. Alors, faisons comme lui, en se rappelant, voilà, que nous sommes privilégiés parce que Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver, mais il a envoyé son propre fils. Voilà. Il a envoyé son fils pour nous sauver, nous, hommes, femmes, pas pour sauver des anges, mais il utilise les anges comme des messagers pour sa gloire. Prions. Seigneur, merci parce que, en levant ce coin du voile, tu nous montres que nos prières, c'est pas juste des paroles en l'air, Seigneur. Mais quand nous prions, nous entrons dans un vrai combat, Seigneur, et nous déclenchons des choses que nous n'imaginons même pas, Seigneur, derrière le voile, Seigneur, dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, Seigneur. Nous n'avons pas forcément à comprendre tout cela, Seigneur, mais nous savons que ça existe. Notre part, nous, c'est de nous tenir devant ta parole et dans la prière, Seigneur, pour crier à toi que tu interviennes, que tu agisses, que ce soit avec les anges ou sans les anges, Seigneur, tu es tout puissant pour agir. Merci pour ces serviteurs que tu as créés, qui sont là autour de nous, qui sont présents sûrement dans cette salle aujourd'hui, qui veillent sur nous aussi, Seigneur, qui nous entourent de ta grâce comme d'un bouclier, ces anges qui te servaient, Seigneur Jésus, et qui nous servent aussi. Merci parce que, Seigneur, tu savais que nous en aurions besoin. Merci surtout pour ton esprit qui nous habite, qui nous donne la force. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Notre Dieu, renouvelle-nous, fortifie-nous dans la foi et fais de nous des hommes et des femmes de prière et de foi comme Daniel, comme Paul, Seigneur, comme tous ces hommes et ces femmes dans la Bible et dans l'histoire de l'Église qui ont été fidèles pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On prend un dernier cantique maintenant pour terminer ce culte. Je vous invite à vous lever. Voilà, que chacun puisse aussi se placer devant le Seigneur.